Radio Prague, les informations. Bonjour, faute de Russie, les produits tchèques pourraient être exportés en Amérique du Sud et dans les pays de la CEI. En raison du faible cours de la couronne, le budget du ministère des Affaires étrangères va être revu à la hausse. Et puis enfin, la ville de Prague distribue des prospectus pour avertir les touristes et lutter contre la mafia des taxis. Comme indiqué en titre, la production des entreprises exportatrices tchèques touchées par l'embargo décidé la semaine dernière par la Russie sur les denrées alimentaires en provenance de l'Union européenne pourrait être réorientée vers les pays d'Amérique du Sud et les autres pays de la communauté des États indépendants composés d'anciennes républiques soviétiques. C'est ce qu'a fait savoir le ministre adjoint de l'Industrie et du Commerce à l'issue du séminaire pour les exportateurs tchèques qui s'est tenu ce mardi à Prague. Une nouvelle réunion sur les détails relatifs aux destinations alternatives pour les exportations tchèques se tiendra au ministère des Affaires étrangères le 21 août. La semaine dernière, rappelons-le, le ministre de l'Industrie avait estimé à un peu plus de 90 millions d'euros le manque à gagner pour les entreprises tchèques, conséquence des sanctions prises tant par l'Union européenne que par la Russie. Le budget du ministère des Affaires étrangères, établi à 207 millions d'euros pour cette année, sera augmenté en 2015, et ce de telle façon à compenser l'augmentation des dépenses liées au faible niveau actuel du change de la couronne. La promesse en a été faite par le ministre des Finances, Andrei Babich, à son collègue Lubomir Zaoralek, chef de la diplomatie. Si le montant de l'augmentation du budget n'a pas été précisé, celle des dépenses supplémentaires, elle, a été estimée à un peu plus de 6,5 millions d'euros en fin d'année dernière. La monnaie tchèque filtre depuis plusieurs jours avec la barre des 28 couronnes pour 1 euro, son niveau le plus bas depuis 2009. Cet affaiblissement est la conséquence de la dévaluation décidée par la Banque nationale tchèque en novembre dernier. Économie toujours, le géant de l'électricité tchèque, ČEZ, contrôlé par l'État, a annoncé ce mardi une baisse de 40% de son bénéfice net au premier semestre comparé à la même période de 2013, et ce donc à 17 milliards 200 millions de couronnes, soit environ 620 millions d'euros. Cette baisse annuelle est notamment due à une situation incertaine sur le marché de l'énergie, un recul des prix de l'électricité sur le marché de gros et un hiver sec et chaud, a expliqué le groupe dans un communiqué. Culture, une exposition rappelant la première édition du Signal Festival, la fête des Lumières de Prague en octobre dernier, a été ouverte au public lundi soir dans une zone piétonne du centre de la capitale. 13 photos grand format ont été installées, et ce afin d'attirer l'attention du public sur la deuxième édition du festival qui se tiendra du 16 au 19 octobre prochain. L'année dernière, cette nouvelle fête des Lumières, qui avait attiré quand même 250 000 personnes, avait démarré sur la place de la Vieille-Ville avec l'installation de ce qui est appelé le Tesseract, aussi appelé Hypercube, un projet du collectif français 1024 Architecture. Durant 4 jours, diverses installations lumineuses dans l'espace public et projections de vidéomapping sur certains bâtiments du centre-ville avaient été présentées au public pragois. La ville de Prague, toujours elle, va distribuer des prospectus dans lesquels les touristes trouveront les informations de base et des conseils pour leur déplacement en taxi dans la capitale. Cette campagne d'information vise à lutter contre la malhonnêteté de beaucoup de chauffeurs de taxi pragois. Dans ce prospectus figurent notamment les tarifs d'une course au kilomètre et un numéro de ligne auquel les clients insatisfaits peuvent appeler en cas de problème. Depuis de nombreuses années, Prague est confrontée à la mauvaise réputation de ses chauffeurs de taxis qui gonflent régulièrement leurs prix. On termine comme toujours ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps variable dans la moitié est et très couvert dans la moitié ouest qui règne en République tchèque ce mercredi. Mercredi qui est le jour de la fête des Alena. Des averses sont possibles sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles varient entre 17 et 25 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie d'Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute. Au sommaire aujourd'hui, d'abord merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, donc, les relations compliquées avec la Russie et un nouvel épisode de notre série estivale qui sera consacré à la moto Yava. Ce sera juste avant l'émission Panorama, comme tous les mardis, consacrée aujourd'hui à la situation sociale en République tchèque. Il y a 4 ans, Prague avait symboliquement servi de décor à un rapprochement entre Américains et Russes avec la signature d'un accord sur le nucléaire par Barack Obama et Dmitri Medvedev. L'ambiance a aujourd'hui radicalement changé et les relations se sont à nouveau tendues ces derniers mois. Alors nous sommes en ligne avec Jan Eichler de l'Institut Pragois pour les Relations Internationales. Bonjour Jan Eichler.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on peut, selon vous, qualifier l'attitude de la République tchèque ces derniers temps envers la Russie ?
Les attitudes de la République tchèque envers la Russie sont très profondément influencées, tout d'abord par le passé et bien sûr par l'invasion soviétique en 1968. Au mois d'août, il y aura 46 ans.
Il semble que même avec ses voisins les plus proches, la République tchèque ait du mal à trouver une attitude commune envers Moscou. Alors Robert Fico, par exemple, en Slovaquie, ou Viktor Orban en Hongrie sont loin d'être hostiles à Vladimir Poutine. Et puis la Pologne est traditionnellement beaucoup plus méfiante. Alors est-ce que la République tchèque est entre ces deux versants ?
Oui, elle se trouve entre ces deux orientations. Mais il y a quand même une chose un peu surprenante, une surprise, c'est l'attitude du ministère des Affaires étrangères et tout d'abord de son locataire actuel, M. Lubomír Zaorálek. Tout au début, il était très critique vis-à-vis de la politique de Vladimir Poutine, notamment en ce qui concerne la péninsule de Crimée. Mais ce qui est aussi très typique pour presque toute la classe politique, c'est le fait qu'il y a 12 ans, ou même 13 ans, quand les Américains étaient décidés d'envahir l'Irak et de l'occuper, il n'y avait pas beaucoup de protestations. Même s'il y avait des raisons qui ne correspondaient pas à la réalité. Il y a 13 ans, il y avait presque 500 000 soldats américains en Irak. Et cela provoquait beaucoup moins de protestations de la part des élites politiques de mon pays.
Alors, vous parliez de l'attitude du ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek. Dans le passé, il a souvent été reproché à la République tchèque de ne pas parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. Est-ce que, selon vous, il y a eu une évolution dans ce domaine avec les changements de président et de gouvernement depuis l'année dernière ?
Il y a certains changements, mais il y a toujours une chose qui est très typique pour la République tchèque. Cela était typique toujours pendant la période de Václav Havel, de Václav Klaus. C'est un phénomène qui consiste dans les efforts des présidents, des locataires du château de Hradčany, de créer un centre indépendant de la politique étrangère, un centre relativement indépendant vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères.
Alors, lors de la conférence organisée en avril dernier pour fêter les 5 ans du lancement du partenariat oriental, c'était en 2009 à Prague, eh bien, lors de cette conférence, le président Zeman avait offert les services de la République tchèque en tant que pays médiateur entre Moscou et Washington sur la question ukrainienne. Est-ce que, selon vous, encore une fois, c'est un vœu pieux, ou bien la République tchèque peut-elle vraiment être considérée, disons, comme un élément neutre et un pays apte à jouer un rôle d'intermédiaire ?
J'apprécie énormément les efforts du président Miloš Zeman et tout d'abord de son conseiller diplomatique, Monsieur Komoníček. Mais quand même, je reste un peu sceptique, parce que l'Ukraine est un pays énormément compliqué, tout d'abord avec un fardeau historique, avec beaucoup de réminiscences de l'histoire, qui était incomparablement plus violente que la politique entre la Tchèque et la Slovaque. On parle toujours du divorce de Belour, mais c'était entre les Tchèques et les Slovaques. Et ce n'est pas du tout transportable pour les relations au sein de l'Ukraine ou même en, en relation entre l'Ukraine et la Fédération russe.
Yann Eichler, je rappelle que vous êtes à l'Institut Pragois des Relations Internationales. Merci beaucoup et bonne journée.
Bonne journée.
On passe à la suite du programme en français de Radio Prague. Et Radio Prague vous propose cette année une série estivale consacrée à des marques et des produits de République tchèque dont la réputation dépasse les frontières du pays, de l'antivirus Avast au tracteur Zetor, en passant par le Semtex et la Pervitine. La sélection n'est sûrement pas exhaustive, elle n'en est pas moins variée. Épisode à deux roues aujourd'hui avec Java. Java en français, la marque de moto la plus ancienne sur le territoire tchèque. Java tire son nom de son fondateur, František Janeček, qui travaillait à l'origine à la fabrication d'armes pour Česká zbrojovka et qui, en 1929, a acheté la licence moto du constructeur allemand Wanderer. Fondée à Prague, l'entreprise Java a déménagé à plusieurs reprises, de même qu'elle a évidemment changé de propriétaire pour être nationalisée après-guerre. Les réseaux de vente de la marque Česká zbrojovka et de Java sont fusionnés. Java a également sorti quelques beaux modèles d'automobiles, mais ce sont ses motos qui ont rendu la marque célèbre jusqu'en Inde et en Amérique latine. Surtout, ce sont ces motos qui sont devenues l'un des symboles de l'industrie tchécoslovaque dans les années 60 et après, et qui restent prisées par les collectionneurs. Christian Boyer est un passionné de motos anciennes qui vient régulièrement en République tchèque chercher des pièces détachées de Java pour les revendre en France.
Ça fait partie des motos qui représentent, on va dire, toute une génération, tout ce qui est années 50, 60, 70. C'était la moto populaire par excellence et qui était importé à un prix, on va dire, défiant toute concurrence, donc qui motivait les gens. C'était des motos qui étaient très très simples et performantes, qui marchaient très bien, dans, comme beaucoup de motos de moteurs de temps, on va dire, d'Europe de l'Est. C'était des motos qui étaient très très performantes par rapport à la cylindrée et qui étaient fiables, solides. C'est pour ça que ça motivait les gens qui roulaient pas mal, quoi. C'était des motos simples et basiques, mais performantes.
Aujourd'hui, la société Java appartient au groupe industriel Jihostroj. Elle est toujours basée à Tinec nad Sázavou et lutte pour sa survie face à la concurrence venue notamment d'Asie. À Divichov, c'est la société JRM Java qui perpétue une tradition vieille de 75 ans et fabrique des motos Java de compétition pour les courses sur circuit et sur circuit de glace notamment. Sur son site, la marque indique exporter 90% de sa production et ce, dans 24 pays différents. Mais pour les collectionneurs, les plus belles deux roues restent celles construites dans les années 30. Les plus résistantes sont peut-être celles fabriquées dans les années 70 et 80. La preuve, un passionné un peu fou, Pavel Souchy, a récemment réussi à boucler un tour du monde complet en 8 mois avec une Java 350 construite en 1978. On passe à la suite du programme en français avec le panorama. Il y a quelques jours, l'antenne tchèque de l'organisation non gouvernementale internationale Social Watch a publié son sixième rapport portant sur l'évolution de plusieurs thématiques sociales au cours de l'année 2013. Au micro de Lucie Drexelova, la journaliste Sacha Ulova, auteure du chapitre portant sur la montée du racisme vis-à-vis de la minorité rome, a évoqué ses principales conclusions.
Panorama.
Panorama.
Ce n'était pas surprenant de retrouver la signature de Sacha Ulova sous le chapitre portant sur la montée du racisme à l'égard des Roms, car c'est une thématique sur laquelle elle s'exprime souvent. Modestement, elle complète.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien la question de la situation des Roms en République tchèque, qui s'intéressent là-dessus, qui pourraient écrire le chapitre. Donc je pense que c'est plutôt une coïncidence. Moi, je suis journaliste et en même temps, je suis spécialisée sur les Roms parce que j'ai étudié la langue, la civilisation tzigane à l'université. Donc ça me prédispose en quelque sorte, mais comme je dis, il y a d'autres gens qui pourraient l'écrire.
Elle revient aux origines de son intérêt pour la communauté rome qui remonte au début des années 90.
J'ai choisi ce thème après 89, la révolution. Donc, j'ai vite remarqué qu'il y a une montée du racisme anti-tzigane en République tchèque. Donc naturellement, ça a commencé à m'intéresser. J'avais une camarade de classe encore avant la révolution qui était tzigane. À l'époque, on n'en parlait pas autant. Moi, je ne me souviens pas d'entendre aussi souvent le fait que quelqu'un soit tzigane, que ça soit quelque chose qu'il faudrait le dire, qu'il faudrait appuyer là-dessus. Et après, tout d'un coup, après, avec les premiers problèmes sociaux que les gens ont eus ici et la désillusion après la révolution, ça a vite augmenté. Même à la télé, on avait des propos racistes. C'était très dur. C'était peut-être plus dur au niveau discours au début des années 90 qu'aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que cela veut dire d'être rome? Il n'y a pas de statistiques officielles quant au nombre de Roms en République tchèque. La question qui porte sur l'ethnicité dans le recensement est optionnelle et 2 millions de personnes choisissent de ne pas y répondre. Si on en croit le recensement, le nombre de Roms baisse d'une période à l'autre. Néanmoins, selon Sacha Ulova, il y a à peu près 200 000 membres de cette communauté, même si aussitôt elle nuance.
Dire qui est tzigane, c'est souvent difficile. Est-ce que la personne qui est d'une famille mixte, elle est tzigane? Est-ce que quelqu'un qui ne fréquente plus sa famille et qui a fait l'université passe son temps avec des tchèques ethniques, est-ce qu'il se dit tzigane? Des fois, il se sent être tzigane, des fois, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire vraiment, toi, tu es tzigane, toi, tu n'es pas tzigane. La seule chose, c'est que la personne, elle peut dire, moi, je me sens tzigane ou pas. Et en plus, elle n'est pas obligée de le faire, donc on ne peut pas avoir le nombre exact.
La minorité rome fait l'objet de nombreuses légendes urbaines. Selon l'une d'elles, relativement répandue, les Roms se rendent au bureau de travail et repartent avec une machine à laver ou avec des milliers de couronnes additionnées aux autres aides sociales. Sacha Ulova permet de voir plus clair aux origines de cette légende.
Il y a des règles qui sont données, qui sont pareilles pour tout le monde. Il n'y a pas de loi tzigane ou fait pour des tziganes. Il se peut que quelqu'un qui distribue l'argent peut donner à une famille qui est vraiment dans une mauvaise situation de l'argent, 10 000 couronnes par exemple, pour acheter du charbon pour l'hiver ou quelque chose comme ça. Mais il ne se peut pas que les Roms reçoivent de l'argent en plus parce qu'ils sont Roms. C'est vraiment une légende. Moi, je pense que ça vient du fait que déjà les femmes qui travaillent comme assistantes sociales, qui travaillent dans le système social, elles reçoivent très peu d'argent. Elles ont à peu près 12 000 couronnes par mois comme paie. C'est pas beaucoup, parce que 400 euros, ouais, parce qu'elles doivent payer le loyer qui est à peu près de cette somme-là. Si par exemple elles n'ont pas de mari, elles peuvent très difficilement vivre. Une famille où les gens sont au chômage, elle reçoit à peu près pareil s'ils ont 3 enfants. Disons que la femme, elle a un enfant, celle qui travaille, donc elle ne reçoit pas d'argent en plus parce qu'elle a ce qu'il faut, d'après l'État. La famille avec les 3 enfants, elle reçoit à peu près, elle leur distribue comme membre d'État la même somme qu'elle reçoit. Bon, bien sûr qu'ils ont 3 enfants, ça coûte plus qu'un enfant, mais elle sent ça comme une injustice. Parce qu'elle travaille, elle se lève tous les matins et elle a très peu d'argent.
Nés des sentiments d'injustice, les récits de ces personnes impliquées dans la distribution des aides sociales circulent ensuite entre les gens, modifiés et amplifiés. Ainsi naît une légende urbaine selon laquelle des Roms reçoivent jusqu'à 50 000 couronnes par mois, soit environ 1 700 euros. Pour Sacha Ulova, les origines du racisme sont encore ailleurs, notamment dans l'insécurité économique.
Et c'est une désillusion, on vit dans la démocratie, mais les gens y vivent. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas bien. La classe moyenne en République tchèque, elle ne va pas bien. Donc d'où, je pense, il y a une grande augmentation du racisme, de la xénophobie, de la peur. On cherche quelqu'un qui en est coupable.
Dans le processus de la création de l'image des Roms, les médias jouent un rôle particulier. À vrai dire, celui qui a suivi les médias en 2013 n'a pas une très bonne image de cette communauté. On y parlait avant tout des actes criminels ou des problèmes sociaux compliqués des Roms. Néanmoins, cela n'est pas une nouveauté. Sacha Ulova se rappelle de ce qui a été acceptable dans le débat public dans les années 90.
Tout de suite après la révolution, tout le monde était en euphorie, donc on aimait nos frères tziganes, même dans les médias. Mais très vite, deux, trois années après la révolution, on a commencé donc à avoir des propos très racistes à la télé. Par exemple, il y avait un reportage, il y avait une discussion, 12 personnes dans la discussion. À l'époque, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Et on faisait un reportage dans la rue, qu'on montrait sur l'écran. Où les gens disaient même des choses comme les camps de concentration, ça serait bien pour eux. Vraiment très dur et très raciste. Et les gens après au studio, en fait, ils étaient plus ou moins d'accord. C'était vraiment... on pouvait dire à la télé des choses qui sont aujourd'hui, on peut mal les imaginer. Après, on a beaucoup commencé à faire la pression... justement sur le fait qu'il ne faut pas parler comme ça, être correct donc dans le langage, dans les médias. Donc il y avait une période où c'était mal vu de dire des choses qu'on pourrait rendre comme racistes.
Aujourd'hui, il semble inimaginable qu'un discours appelant ouvertement à la haine ou à la violence raciale apparaisse dans les médias. Néanmoins, la crise économique a contribué à durcir le langage. Si le racisme est présent, il est plus implicite.
Les journalistes eux-mêmes, ils font des reportages en sorte de montrer que les tziganes sont mauvais. Alors, bien sûr, ils n'utilisent plus le mot rom tzigane, ils disent inadaptable ou socialement exclu. Ils ne disent pas directement, ils ne parlent pas des solutions finales, des trucs comme ça, mais ils montrent que c'est des gens avec lesquels on ne peut pas vivre.
La démarche journalistique commence déjà par le choix des sujets qui est très biaisé.
Les policiers avec lesquels j'ai parlé de ça, ils sont très fâchés contre les journalistes. Les journalistes, ils font les nouvelles des événements qui sont banals tant qu'il y a un Rom qui est dans l'événement. Mais si la même situation se passe et un Rom ne figure pas, alors c'est bien sûr pas quelque chose qui pourrait être dans le journal, parce que sinon les journaux seront pleins. Des nouvelles, hier, il y a Jean et Olivier qui se sont cassés la gueule. Alors, c'est un tzigane qui est là-dedans. Alors, tout d'un coup, ça peut faire la une d'un journal.
Sur ces sujets, la circulation des informations fonctionne généralement très bien et les autres journaux reprennent le même thème. Sauf que la sélection très limitée des informations peut non seulement donner une fausse image de la réalité, mais par ce biais alimenter les sentiments anti-Rom.
En fait, c'est pas vrai ce qu'ils disent dans le journal. Ils ne mentent pas, ça s'est vraiment passé la situation, mais parce qu'il y a plein d'autres situations pareilles qui se sont passées en même temps et on n'en informe pas, alors c'est une image fausse qui se crée.
Pour illustrer, imaginez plusieurs bagarres qui se produisent au cours d'une soirée. Certaines ne sont même pas rapportées à la police, d'autres ne sont pas retenues dans les médias. Au programme restent souvent celles où figurent des Roms. La caméra et l'image sont des composantes importantes de l'information qui sont là pour soutenir le message qui est passé. Pour faire des reportages des localités où vivent les Roms, on procède parfois de manière particulière.
Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on parle d'un endroit où il y a des Roms qui habitent et les gens ne sont pas contents et c'est pas assez moche là-bas, alors on montre des images d'une autre localité. C'est ce qu'on faisait par exemple avec le mur de Matichny. L'endroit où il y avait le mur de Matichny peut-être n'était pas très représentatif au moment où on n'enlevait pas les déchets pendant un moment. Donc il y avait des déchets qui étaient par terre. Mais après... la ville, elle a commencé à travailler normalement, donc il n'y avait plus de déchets. Et c'est vrai que l'endroit, il n'était pas horrible à voir. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait toujours, quand on parlait de Matichny, des maisons qui étaient un peu plus loin, qui étaient cassées, où il n'y avait plus personne qui habitait.
Les manifestations anti-Rom qui se sont multipliées au cours de l'année 2013 dans plusieurs villes au nord de la Bohême constituent un autre exemple du traitement journalistique particulier. Après avoir passé beaucoup de temps à discuter avec les habitants de la ville de Dourtsov, Sacha Ulova analyse les sources de ces manifestations.
Le mécanisme qui les a activisés, le fait qu'ils étaient dans la rue, c'était des événements qui se sont passés avec les Roms dans l'endroit. Mais le fait qu'ils étaient vraiment mécontents avait plusieurs sources. C'est le fait qu'il y a un taux de chômage très élevé, le fait qu'on abolit des écoles, des moyens de transport, que les mairies ne travaillent pas bien, il y a beaucoup de corruption, il y a aussi beaucoup de corruption au niveau de l'État. Et tout ça, c'est ce que ces gens-là, ils avaient à dire. Sur la place, il y avait beaucoup de gens, on parlait sur le podium, et ils parlaient de tout ça. Ils parlaient une heure, deux heures, ils disaient beaucoup de choses. Ils parlaient minimalement des Tziganes. C'était un thème, mais ce n'était pas un thème principal. Le thème principal, c'était en fait la mairie de la ville. Et après, il y a quelqu'un qui a dit 3-4 phrases sur les Tziganes. Après, il y a des gens qui ont crié les Tziganes au travail pendant 10 secondes. Mais ils ont crié aussi beaucoup de choses d'autres. Et le soir, à la télé tchèque, donc la télé publique, on voit un reportage qui est très court, bien sûr, parce que les reportages à la télé sont courts, où il y a les trois phrases sur les Tziganes qu'on a dit cet après-midi, et où il y a des gens qui crient les Tziganes au travail. Donc ces gens-là, après, ils étaient fâchés, ils disent qu'ils font des racistes de nous. C'est la seule chose, mais en même temps, c'est la seule chose où ils peuvent se faire entendre. S'ils font une manif et ils disent on est contre, en fait, on ne veut plus de corruption, on veut changer, on veut des élections, une autre mairie, une autre représentation, alors la télé, elle ne vient pas. Elle vient seulement s'ils crient il faut que les Tziganes travaillent. Et en fait, ils le savent. Donc, ils le crient aussi. Mais après, ils sont fâchés parce qu'ils disent mais on a aussi d'autres choses à dire et on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas.
Les statistiques confirment que les articles ayant le mot « Rome » dans le titre sont les plus lus. À la recherche du lectorat et l'audimat le plus large, le choix des sujets n'évite parfois pas de simplification, raccourcis et sélection biaisée. Les façons dont les médias informent sur la communauté rome en République tchèque posent la question de l'approche à l'actualité. Dans un univers où la rapidité est la plus valorisée, le temps manque toujours et le budget est plus que restreint. Tout cela mis ensemble, l'information biaisée qui apparaît dans les médias n'est peut-être pas le fruit d'une mauvaise intention, mais peut contribuer à la montée du racisme.
Merci à Lucia Drixelova pour cette nouvelle édition du Panorama. Merci à vous de votre fidélité et de votre attention. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz pour écouter cette émission ou toutes les autres émissions des archives de Radio Prague. www.radio.cz/fr pour accéder directement à nos pages en français. À très bientôt.